session ce matin s'intitule « Apprendre à entreprendre, apprendre à diriger ». Nous aurons trois interventions. Marie Nasseri, Joël Dallier, François Gilberger, Sébastien Stelger, tous les trois. Puis Marion Fischer. Dans cette ordre, vous remercie.
Oui.
Donc je vais laisser la parole. Bon,
je passe la parole à Joël Lallier, François Schoenberger. Schoenberger, je ne sais pas comment. Schoenberger. Et Sébastien Stenger.
Stanger.
pour une communication sur la vocation pour l'élite des affaires, les ressorts de l'orientation des étudiants des grandes écoles de commerce.
Alors, je vais présenter rapidement le contexte de ce papier. Pour que vous compreniez nos objectifs. Donc ça s'inscrit dans une recherche plus vaste que l'on mène actuellement avec François et Joël sur les métiers de la finance de marché et des cabinets de conseil en stratégie. Donc peut-être quelques éléments pour mieux appréhender ces métiers et ces entreprises. Donc c'est les entreprises qui font du M&A, de la fusion acquisition et les cabinets de conseil en stratégie en particulier font partie des débouchés les plus et rémunérateur pour les étudiants des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs en France, mais aussi à l'étranger, où c'est parti des débouchés les plus prestigieux pour les étudiants de la Ivy League ou de Oxbridge en général. Les plus connus sont pour la banque d'affaires Goldman Sachs, Rothschild, Morgan Stanley, et pour le conseil en stratégie, les plus importants sont le BCG, McKinsey et Bain. Voilà. Alors, ces entreprises, en effet, occupent une place centrale dans le monde des affaires, à la fois directement par leurs activités de conseil, de fusion, mais aussi indirectement parce qu'elles elles positionnent leurs anciens salariés à des postes de direction dans les grandes entreprises. Donc elles constituent en quelque sorte un sas de transition. La rémunération y est avantageuse. Les étudiants qui rejoignent ces entreprises gagnent à 23 ans en sortant d'école 65 000 euros et 5 ans après, ils sont au moins à plus de 150 000 euros, ce qui les positionne d'emblée dans les 2-3% les plus riches de la population. Et donc, pour ne pas tomber dans trop de détails, pour dire rapidement, voilà, pour rendre compte de ce pouvoir, habituellement, on appelle par exemple McKinsey l'usine à CEO, c'est-à-dire à dirigeant. Je crois que c'est 25% des membres des COMEX du CAC 40 en France sont issus de la stratégie. C'est plus faible que dans d'autres pays à cause de l'ENA. Et alors, Goldman Sachs, c'est la banque dont on dit, comme vous le savez, qui dirige le monde. Donc voilà. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est que pourtant, en dépit de ces chances de pouvoir objectives, l'investissement dans ces cabinets, dans ces entreprises, ne va pas pour autant de soi, parce que les carrières y sont extrêmement compétitives et incertaines. On trouve des horaires interminables, une vie privée quasi inexistante et une concurrence harassante. Pour prendre rapidement de cette extrême horreur culture ou des difficultés qu'on peut y trouver dans ces cabinets, dans la carrière, je donne souvent l'exemple de la mort de ce stagiaire chez Merrill Lynch en année qui avait fait grand bruit et qui avait mis aux yeux du grand public qui avait mis la lumière sur les pratiques de ces cabinets. Et effectivement, ce stagiaire avait été mort après 3 nuits blanches et était adepte d'une pratique qu'on trouve encore à Paris en année qui consiste à faire une nuit blanche et la pratique du magic roundabout, c'est le manège magique où le taxi nous attend à 4h du matin, nous ramène chez nous, nous attend en haut pour prendre la douche et ramène le stagiaire au travail, en quelque sorte. Donc, voilà, un engagement dans le travail ambivalent parce qu'on trouve à la fois une forte volonté de réussir à tenir la distance et en même temps le sentiment de sacrifice et une pression physique ou psychologique forte. Donc, par rapport à ça, nous avons décidé de voir en amont comment se décide le choix de s'engager dans ces carrières dont les caractéristiques sont connues par les étudiants, et donc voilà comment se construit le choix d'orientation et le goût des étudiants pour ces métiers durant leurs études, en particulier en école de commerce. Et donc nous avons contacté les étudiants d'un cours obligatoire de tronc commun d'une grande école de commerce qui rassemble toutes les filières et qui mélange les étudiants à différents moments de leur scolarité afin de les interroger sur leur parcours et leurs préférences. L'objectif en particulier, c'était de bien comprendre d'un point de vue comparatif, c'est-à-dire en voyant pourquoi on choisit la stratégie où l'on en est par rapport à ceux qui choisissent de ne pas y aller, en quelque sorte, aussi, donc d'avoir cette vision d'ensemble. Donc, nous sommes encore en travail sur ces données, mais je laisse quelques camarades donner les éléments de notre terrain et de nos résultats.
On va vous présenter on va l'appeler la grande école en tant que dispositif de socialisation. Alors c'est une école qui fait partie des plus grandes écoles de commerce de France. Elle compte au total une vingtaine de programmes de formation, mais notre enquête porte exclusivement sur le programme historique et qui est aussi considéré comme le plus prestigieux, qui est précisément le programme Grande École. Dans ce programme, en première année, la majorité des cours est imposée aux étudiants. Et c'est ensuite, à partir de la deuxième année, qu'ils ont un choix total dans les cours qu'ils vont suivre, mais aussi dans la construction de leur scolarité. C'est-à-dire, ils peuvent prendre une année sabbatique s'ils le souhaitent, faire un stage de 6 mois ou d'un an d'entreprise, etc. Ils organisent leur scolarité comme ils le veulent. Et au total, donc le temps de scolarité peut être variable, il se fait en général entre 4 et 5 ans. Il existe un grand nombre d'associations au sein de la grande école qui jouent un rôle important dans la socialisation, on va en parler après. Et presque tous les étudiants de première année sont inscrits à une association. Alors traditionnellement, pour accéder à cette grande école, il faut faire une classe préparatoire. Et on compte aujourd'hui, par promotion, environ 400 étudiants qui proviennent de la classe préparatoire. Mais en parallèle, il existe des voies en parallèle d'admission dans cette grande école, mais qui intègre seulement à partir de la deuxième année. Et on a environ, une estimation, c'est 440 étudiants qui viennent de ces voies parallèles et qui sont admis par dossier et par un entretien aussi. On a donc deux modalités différentes d'entrée dans la grande école, mais aussi de rapport à la grande école. D'un côté, ceux qui sont admis sur le concours post-classe préparatoire, qui ont été sélectionnés scolairement, et donc socialement, qui intègrent dès la première année la grande école. Et d'un autre côté, les étudiants qui proviennent de ces voies parallèles, qui ont été choisis pour des motifs moins scolaires, mais plutôt liés à leur projet professionnel. Alors, de ce côté, les étudiants qui proviennent de ces voies parallèles sont sélectionnés avec un diplôme de niveau Bac plus 4 au minimum. Une partie de leur sélection passe, je l'ai dit, par la cohérence de leur projet professionnel. Et donc, ils sont plus âgés que leurs camarades issus de classes préparatoires. Beaucoup ont déjà une expérience professionnelle et ils abordent la grande école avec un projet figé, une approche professionnelle bien claire, etc. Donc, il y a un rapport presque instrumental professionnellement à la grande école pour ces étudiants. Ils sont globalement peu engagés dans la vie associative de l'école par rapport aux étudiants qui proviennent de classes préparatoires. Leurs sociabilités amicales sont presque exclusives entre eux. Et cette clôture s'explique par différents facteurs, donc la différence d'âge, leur arrivée tardive, donc c'est-à-dire en deuxième année, alors que les sociabilités amicales ont déjà été développées dès la première année. Et aussi un certain mépris diffus des étudiants admis sur concours qui voient leur légitimité dans l'école exclusivement liée au fait d'avoir réussi scolairement ce concours. Dans cette population d'étudiants admis par ces voies parallèles, on a une variabilité des parcours scolaires précédents. Certains viennent d'IEP de province, d'autres de facultés de droit, d'autres d'écoles d'ingénieurs, plutôt de second rang, on pourrait dire. Donc il y a une grande diversité dans ces profils. A l'inverse, les étudiants qui proviennent des classes préparatoires sont unis par une expérience de socialisation forte et intense qui est précisément la classe préparatoire. Et donc pendant cette période de classe préparatoire, tout le cadre de leur vie est clairement défini. L'objectif est explicite, c'est-à-dire intégrer la meilleure école possible, et avec une hiérarchie des écoles qui est aussi parfaitement claire, HEC numéro 1, ESSEC numéro 2, ESCP numéro 3, EM Lyon 4, etc. Et des moyens qui sont aussi clairement posés. Un travail scolaire intensif, qui implique de mettre entre parenthèses sa vie sociale. Et donc, dans ce contexte, les cours, sont, pour eux-mêmes, sont extrêmement valorisés, sont le moyen pour arriver dans ces écoles. Il y a donc un choc extrêmement fort donc, qui a été étudié par Yves-Marie Abraham avec l'arrivée en grande école. Contrairement à la classe préparatoire, les cours sont dépréciés par les étudiants, et c'est à l'inverse la performance dans la vie sociale de l'école qui devient l'élément le plus important, à travers les soirées, à travers la vie associative, etc. Il y a une rupture nette avec la clarté du cadre de la classe préparatoire. Il revient aux étudiants de déterminer leur objectif. Alors on leur impose d'avoir un objectif, c'est-à-dire qu'ils doivent déterminer, ils doivent avoir un stage à la fin de la première année, ils doivent construire leur projet professionnel, mais c'est à eux de déterminer la manière dont ils vont le remplir, en quelque sorte. Ils doivent aussi décider des moyens qu'ils vont mettre à contribution pour obtenir cet objectif. Utiliser les plateformes proposées par l'école, s'informer au forum réalisé par l'école, contacter leur réseau personnel, contacter le réseau des anciens de l'école, contacter spontanément des professionnels, etc. Et donc là, les règles ne sont pas claires, en quelque sorte, pour eux. Et donc, ils se retrouvent dans une configuration où ils sont obligés de faire des choix sans avoir explicité ni les buts, ni les moyens de les atteindre. Et donc, ils sont, en quelque sorte, déstabilisés en termes de repères par rapport à la classe préparatoire, et ils doivent se tourner vers d'autres instances pour se repérer dans cet univers inconnu, en quelque sorte. Et donc, les instances d'orientation pour les étudiants sont, dans un premier temps, les cours, malgré le mépris dont ils font l'objet, déjà par dégoût, ça permet de s'orienter quand un cours ne plaît pas, et on a eu un nombre important de cas qui suivent des cours de comptabilité qui décident de ne pas s'y orienter, par défaut éventuellement, mais aussi rarement par goût. Ensuite, les sociabilités amicales sont aussi importantes et qui sont renforcées par le rôle des associations, qui sont des espaces de socialisation amicale intense, parce qu'il y a une grande fréquence de rencontres entre les membres, la poursuite de projets communs, et une forme de transmission, en quelque sorte, de repères, puisque les nouveaux étudiants rencontrent dans ces associations les anciens. Ils peuvent profiter d'informations sur le monde du travail, sur la vie à l'école, etc. À partir de la deuxième année, les étudiants sont donc libres de choisir leurs cours, etc. Et ils se désengagent progressivement, mais à des rythmes différents, de la vie sociale de l'école. Alors, toutes ces instances de socialisation ne se déploient pas sur un tissu social neutre. C'est même tout le contraire qu'on observe, c'est que tous les objets de la vie sociale de l'école sont strictement hiérarchisés. Les étudiants, dans un premier temps, comme l'avait montré Yves-Marie Abraham, on a les cools, les no-bod, les polars, les raves, etc., qui classent assez nettement les étudiants. Les associations elles-mêmes sont hiérarchisées, les associations de cools, de raves, etc. Les carrières professionnelles aussi. Et on a une grande similitude, en fait, de la perception des carrières les plus prestigieuses. Et pour les étudiants, quelle que soit leur orientation, les carrières vues comme les plus prestigieuses sont les carrières en M&A, donc Goldman Sachs, Rothschild, etc., et en conseil en stratégie, donc, dans les trois plus gros cabinets qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et ensuite, avec quelques variations, on a travaillé dans les GAFA, travaillé en start-up, faire de l'audit, faire du contrôle de gestion, faire du marketing, et tout en bas de l'échelle, faire des ressources humaines. Et donc, comme on voit, on observe cette hiérarchisation très forte de différents objets, on formule l'hypothèse que ces différentes hiérarchies sont le produit des mêmes schèmes de perception et de classement. Et on observe aussi que les étudiants considérés comme cool sont souvent dans les associations dites cool, choisissent les cours vus comme les cours sérieux et partent dans les carrières aussi vues comme les plus prestigieuses, et vice-versa. Donc on a une certaine forme d'homologie, en fait, entre toutes ces hiérarchies. Et donc on suppose aussi que l'application de ces schèmes systématiques de classement, c'est-à-dire penser strictement l'univers des possibles avec une distinction haut-bas, prestige, dégoût, etc., est le produit de la socialisation enveloppante, pour reprendre les mots de Muriel Darmon, en classe préparatoire, où le devenir scolaire se pensait précisément en ces termes. Et on trouve moins chez les étudiants issus des admissions parallèles cette hiérarchisation stricte des carrières, etc. Voilà. On va désormais s'intéresser aux agents concrets qui passent par ce dispositif de socialisation pour présenter justement des modes de socialisation différenciés.
Alors, merci beaucoup aux organisateurs pour cette journée. Donc merci beaucoup. Alors revenons donc maintenant un peu plus sur les propriétés sociales de nos élèves. Si vous voulez, comme on l'a vu, effectivement, le M&A, mergers and acquisitions, hein, c'est les fusions-acquisitions, excusez-moi, pour les uns et les autres, le conseil en stratégie, se présente effectivement comme les plus prestigieux, les plus sélectifs, mais tous ne s'y engagent pas, heureusement. Et ça demande donc des dispositions spécifiques. On essaie de savoir s'il y avait dans les associations scolaires, familiales, des éléments qui concourent à présenter sur le mode de l'évidence un choix qui peut-être souvent ne l'était pas auparavant. On a une population de 26 étudiants sur lesquels on a travaillé, et pas 36, excuse-moi Céline, je me suis trompé dans le texte. Et parmi ces 26, on en a 12 qui souhaitent s'orienter vers le conseil, la finance ou les fusions-acquisitions. Parmi ceux-ci, 4 sont en voie de conversion, on pourrait dire. C'est-à-dire, ils ne sont pas rentrés pour faire ça, mais ils avaient un autre projet professionnel souvent assez affirmé et ils l'ont changé. Et 8 sont déjà sérieusement engagés dedans. Alors, j'ai essayé de faire une typologie. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de ne pas être trop caricatural, mais je vais essayer de m'en tirer quand même. Alors, je vais commencer par vous parler de ceux qui veulent y aller. Et puis après, je vais essayer de vous parler de ceux qui ne veulent pas y aller. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut voir en termes de socialisation et de trajectoire. Et je vous préviens, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi pire. On ne tire pas le trait. En 5 minutes, ça va être génial. Qui y va et qui y va tout de suite? Donc on en a 8. Première chose, ils ont tous fait une prépa dans un grand lycée privé catholique parisien ou de l'Ouest parisien. Saint-Jean-de-Passy, Dagny-Loire-Rueil, Grandchamp à Versailles, Saint-Louis-de-Gonzague dans le 16e, Stanislas, pour les Lyonnais, les Maristes. Le lycée Sainte-Marie, qui est un peu l'équivalent. Donc, en gros, on a une population très homogène qui est dans des privés, dans des prépas privés cathos. En général, il y a une logique en termes d'origine sociale. Hein, ils habitent pour la plupart dans le 16e arrondissement. Ils appartiennent à la bourgeoisie établie, catholique, voire l'aristocratie. Et en gros, l'hypothèse qu'on pourrait voir, s'engager, c'est de voir qu'en fait, on a l'investissement d'une carrière dans le conseil de l'MNS, c'est une façon de convertir, on pourrait dire, leur position héritée en position occupée. En gros, pour les enfants de l'élite, avoir les jobs de l'élite, quoi. La prépa a un rôle très important, puisque tous, en fait, ont une vision extrêmement positive de l'expérience de la classe prépa, dans mon univers très compétitif dans lequel ils sont sortis par le haut. Ils trouvent tous que la prépa, c'était génial, ils se sont éclatés en prépa. Ils baignent aussi dans un environnement familial où en fait les pères travaillent dans les banques, travaillent dans les cabinets de conseil. Donc ils appartiennent réellement à cette bourgeoisie d'affaires parisienne. Une fois entrés à l'école, ils trouvent que les cours c'est de la merde, c'est des cours bullshit, etc. Sauf les cours de finance et de stratégie, qui sont en fait les seuls qui sont un petit peu challenging, on va dire, pour les étudiants, parce qu'il y a des mathématiques. Et donc, la compétition scolaire qu'ils avaient en prépa ne se revit en fait que dans ces matières-là. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre que il y a une forme de redéploiement de la compétition scolaire seulement dans ces matières-là, ce qui les rend d'autant plus attractives. Malgré ça, ils sont tous d'accord pour dire que leur note dépend de l'heure à laquelle ils ont révisé la veille leurs examens. C'est au travers des associations en fait que se joue très fortement la socialisation et le désir, en tout cas le désir d'orientation, la question de l'intériorisation de la hiérarchie des débouchés et comment s'affirme le goût pour ces débouchés-là. Donc en fait, ces jeunes gens sont dans les associations qui sont les associations des gens cool. Donc ça dépend des écoles, donc je ne vais pas vous dire quelles sont le nom des associations, sinon ça sera trop facile, ça sera embêtant pour les gens qui connaissent trop les écoles, dans lesquelles ils font tous en fait du M&A ou du conseil en strat. Et donc il y en a qui disent, c'est simple, voilà, dans l'association où j'étais, en fait, tous les vieux, ceux qui sont en deuxième, troisième année, ils ont tous fait des stages chez McKinsey, chez Bain, chez Goldman, et ils reviennent, ils nous en parlent, c'est génial, etc. Et donc j'ai fini par me poser cette question-là, et donc s'impose un peu de façon un peu naturelle. Il faut comprendre, cela dit, que ces débouchés se vivent aussi pour ces personnes-là, un peu sur le mode de l'évidence, dans le sens où ils vont faire des premiers stages et puis ils vont dire « Ah, mais en fait, ça a super bien fité ». C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que montre par exemple Karen, c'est pas Karen, Rivera, non. Ouais, c'était pas Karen. Alors, je sais plus, c'est Riviera, bon, je sais plus comment elle s'appelle, qui a travaillé sur le recrutement dans les grandes firmes et les cabinets d'avocats, qui explique qu'en fait, justement, ce que recherchent les RH dans ces firmes-là, c'est de trouver des gens avec qui ils vont avoir un bon fit. Et en gros, c'est des propriétés sociales qu'ils évaluent, mais ça se joue aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que ces jeunes gens vont y aller parce que, au contact, quand ils sont en stage, ils vont se vivre comme parfaitement accordés avec ce milieu-là, ce qui les attire encore davantage. Je fais très très vite, je suis désolé. Il faut conclure. Alors, pour aller vite, ceux qui n'y vont pas, et je conclue en 3 minutes, ceux qui n'y vont pas n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Ils n'appartiennent pas à la bourgeoisie d'affaires. Et je vais pas pouvoir vous parler de tout, mais je vais juste vous parler d'un cas. Donc, en général, si vous voulez, moins on appartient à ce milieu social-là, moins on va être accordé à la socialisation scolaire. Donc, ceux qui ont fait même des classes préparatoires mais ne sont pas de ce milieu-là vont plutôt investir des associations qui sont plus marginalisées. Et ils vont aussi pouvoir investir dans l'école des secteurs qui sont les secteurs des frics, comme ils disent. C'est le secteur public. Il y a une filière secteur public qui sont pour ceux qui veulent préparer l'ENA, etc., etc. Et là, c'est vraiment les marginaux de l'école, d'accord, qui se retrouvent là. Et ce sont ceux qui ne veulent pas faire des stages en finance. Donc, il y a des espaces, si vous voulez, pour cette forme de déviance par rapport à cette norme qui s'exprime. Et où les élèves se socialisent entre eux. Ils sont dans les mêmes associations. Alors, ils vont être à l'association Japon, ils vont être à l'association des associations culturelles. Donc, vraiment des associations qui ne s'agit pas de... d'associations de finance ou de distinction par les activités physiques comme faire du bateau ou ce genre de choses-là. D'une part, et alors juste vous donner un exemple, et puis après je m'arrête là, on pourra en reparler. C'est le cas des filles qui rentrent dans ces écoles-là après avoir fait des CAGN BL, parce que souvent elles viennent de la bourgeoisie également, pas toujours, mais bien souvent. Mais elles se retrouvent dans une situation très particulière, puisqu'en fait, le fait de rentrer dans une école de commerce, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, quand vous êtes en CAGN L ou BL et que vous passez le concours de l'ENS, vous êtes quasiment... c'est très facile. Je crois que quand vous êtes retenu à l'ENS, vous êtes retenu d'office à HEC pour passer les oraux. Et donc, c'est une voie de sortie, en gros, pour ceux qui ne rentrent pas à l'ENS aussi. Alors, et c'est une voie de sortie terrible, en fait, objectivement. Et donc, ça fait rentrer des personnes qui sont très peu accordées à cet univers des écoles de commerce, qui rentrent comme une forme de relégation sur un échec dans la prépa, qui n'ont pas du tout la même expérience de la classe prépa. Souvent, ce sont des personnes qui ont une expérience assez négative de la classe préparatoire, et qui, une fois qu'elles rentrent à l'école, se retrouvent très... décalé par rapport à l'univers de l'école de commerce, qui n'investissent pas les mêmes associations non plus, et qui ne peuvent pas non plus investir la compétition ni scolaire ni sociale à l'intérieur. C'est-à-dire que la compétition scolaire qui se joue sur les matières avec des mathématiques, elles ont perdu d'avance. Donc elles se retrouvent de fait très marginalisées. Bon, je vais m'arrêter là, je suis désolé, on avait trop de choses à dire.
Parole à Marion Fleischer sur la socialisation au monde des start-up, une affaire de classe, point d'interrogation.
Merci. Alors, ma communication s'intitule « La socialisation au monde des start-up, une affaire de classe ». Alors, brièvement en introduction, donc la sociologie de l'entrepreneuriat s'intéresse depuis longtemps aux dispositions sociales et économiques pouvant expliquer que certains décident de s'engager dans la carrière entrepreneuriale, mais la création de start-up, qui pourtant constitue un objet emblématique des processus entrepreneuriaux actuels et en même temps un objet singulier, reste très peu étudié en sociologie. Donc contrairement à la création de l'entreprise classique, il ne suffit pas de disposer de fonds propres très importants ni de contracter un emprunt à la banque pour monter une start-up. Censé être un projet innovant, porteur d'une très grande croissance ou souvent de d'innovation technologique très coûteuse, les fondateurs de start-up doivent s'adresser à des sources de, enfin, recourir à des sources de financement extérieures comme les subventions comme la BPI France, des prêts d'honneur, des levées de fonds, et donc s'adresser à des acteurs très particuliers. Mais donc du coup, en fait, elle requiert surtout, avant d'avoir un capital économique, un réseau et la maîtrise des codes qui structurent cet écosystème et le processus de création. Du coup, l'objet de cette communication est donc de comprendre, d'une part, comment les codes de ce monde-là sont transmis et diffusés aux entrepreneurs et par quelles instances de socialisation cela s'opère et comment cette socialisation s'articule avec les dispositions, les dispositions et les caractéristiques sociales des fondateurs et fondatrices. Du coup, je m'appuierai pour cela sur un corpus d'entretiens, donc 45 entretiens réalisés avec des fondateurs et des fondatrices de start-up que j'ai essayé de diversifier un maximum en fonction du genre, mais surtout de la zone géographique. Donc, 20 d'entre eux ont grandi et résident à Paris, 13 ont grandi et résident en banlieue parisienne, alors des banlieues assez variées en termes de caractéristiques sociales, et 12 viennent de grandes villes de province. Donc, en fait, ici, je voulais m'intéresser particulièrement aux différences entre Paris et sa banlieue, dont on sait à quel point elle redouble des inégalités sociales. Et ma question était, en quoi est-ce que c'est différent d'entreprendre à Paris ou à Évry, à Bondy ou à Saint-Denis ? Donc, bien sûr, il y a aussi des inégalités de disposition qui se jouent en termes de genre, mais vraiment, je vais laisser volontairement cette question de côté parce que je n'avais jamais eu encore l'occasion d'exploiter ce matériau Paris-banlieue. Donc, même tout ce qui est Paris-province, je laisse de côté, je ne suis pas capable là, de traiter cette question. Donc je m'intéresserai surtout sur les rapports sociaux de classe en mobilisant surtout des entretiens réalisés avec des entrepreneurs de banlieue parisienne, et je m'appuierai également sur les résultats d'un questionnaire. Dès que je vais citer des chiffres, ce sera les résultats de ce questionnaire. Donc si vous voulez plus de détails, j'en parlerai après parce que c'est trop long. Je m'appuierai également sur quelques observations réalisées dans des événements de l'écosystème des startups, donc After Work, Startup Weekend, meet-up, enfin tous ces mots un peu nébuleux, mais qui en fait sont autant de lieux de socialisation à cet écosystème. Donc ma question, c'est comment se socialise-t-on à l'univers des startups ? Observe-t-on des inégalités de disposition dans la capacité à connaître et à maîtriser les normes de ce champ ? Donc, dans un premier temps, nous verrons que les dispositions à entreprendre se jouent déjà dans la famille et à l'école, mais que c'est également par l'intermédiaire des grandes écoles et des lieux parisiens de socialisation à l'univers des startups que sont transmis ces codes-là. Leur accès est assez inégal, nous le verrons. Donc, dans un premier temps, donc le monde des startups, en fait, est souvent appelé écosystème, forme un univers extrêmement codifié dans lequel il est difficile de se repérer et de s'orienter si on n'en maîtrise pas les codes, les règles et les logiques. Du coup, la socialisation à cet univers est une étape à la fois déterminante à l'entrée, c'est-à-dire qu'il faut déjà désirer rentrer dans ce mode d'entrepreneuriat particulier, et même en son sein, pour en suivre les codes, pour assurer le bon développement de la start-up. Alors, parmi les instances qui contribuent à socialiser les individus à l'entrepreneuriat, les plus fondamentales et les plus connues sont la famille et l'école. Donc, le milieu familial contribue grandement à l'intériorisation d'une culture entrepreneuriale. Donc moi j'ai 20% de mes fondateurs et fondatrices de start-up qui ont un père indépendant ou chef d'entreprise, donc dans ces cas-là, à défaut de leur transmettre une exploitation familiale ou une entreprise, ils transmettent un habitus, un système de valeurs valorisant la prise de risque, le goût de l'indépendance, de la liberté, etc. Donc Sophia, dont le père est chef d'entreprise et la mère pianiste, dit « Moi je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, mon père est entrepreneur et ma mère elle n'est pas entrepreneuse mais elle est professeure de piano, donc ça reste dans le libéral. Et mon père, son frère, il a également monté une entreprise et son autre frère aussi, donc la boîte était un peu un fantasme, bien sûr que j'avais la fibre. Mais c'est aussi de plus en plus dès le collège et le lycée que s'opère cette socialisation à l'entrepreneuriat, notamment les travaux de Sabine Rosier montrent qu'à travers tous ces dispositifs de mini-entreprises qui sont complètement intégrés dans les programmes éducatifs du collège, où en gros les élèves sont invités à jouer le rôle de PDG, de DG ou de RH dès l'école pour les sensibiliser à cet esprit d'entreprise. Donc cette socialisation, elle s'opère maintenant dès la sixième. Mais c'est surtout en fait par les grandes écoles que se fait cette socialisation. Puisqu'on sait, donc grâce aux travaux notamment d'Olivia Chambard, que ces grandes écoles sont de puissants lieux de socialisation à l'éthos entrepreneurial et aux idéologies néolibérales, en fait, elles sont Oui, elles constituent des lieux qui transmettent à la fois des compétences concrètes liées à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est tout un savoir-faire qu'ils apprennent. Ils apprennent à faire un business model, un business plan, par un moment, à réaliser une étude de marché, à faire un état de la concurrence. Donc tout ça, c'est des savoir-faire très concrets, mais c'est également un ensemble d'informations, de codes et de savoir-être qui sont transmis. Moi, j'ai pu assister à de nombreux concours de pitch, concours de start-up organisés par l'ESSEC, le SCP, même PSL, etc. C'est assez impressionnant. Enfin, les porteurs de projets doivent présenter en 10 minutes ou même des fois en 2 minutes l'état de la concurrence, leur business plan, l'équipe, tout ça à la manière d'un TEDx américain, en se mettant en scène et en faisant preuve de charisme. Et donc on voit bien que, en observant ce genre de moment, à quel point il est question en fait de technique du corps, de mise en scène de soi et de qualité rhétorique et oratoire. Et on sait depuis longtemps que ces dispositions sont plus acquises au cours des socialisations antérieures et sont socialement marquées plus qu'apprises dans ces écoles. Donc déjà, en valorisant la qualité de l'expression orale et la mise en scène de soi, les codes de cet écosystème sacralisent déjà les inégalités. Donc au regard de cette force socialisatrice de ces institutions, il n'est pas étonnant que 80% des fondateurs et des fondatrices de start-up aient un niveau de diplôme supérieur à Bac plus 5, équivalent ou supérieur à Bac plus 5, que 21% viennent d'écoles d'ingénieurs et 35% d'écoles de commerce. En fait, ces écoles, en plus de transmettre un savoir-faire et un savoir-être, transmettent des ressources particulièrement précieuses pour rentrer dans le monde des start-up, puisque elles offrent un accès privilégié à des incubateurs, donc les structures d'accompagnement censées héberger et accompagner vraiment avec un programme dédié des projets de start-up. Mais elles offrent aussi des contacts pertinents, des modèles entrepreneuriaux. Donc dans une promo, on peut connaître des gens qui ont monté une start-up. Donc ça peut prendre le relais d'une socialisation familiale pas forcément favorable à l'entrepreneuriat initialement. Or, l'accès à ces instances est complètement, est très inégal. Et inégalitaire. En effet, beaucoup de mes enquêtés soulignent que le passage par l'école de commerce est déterminant dans la réussite d'un projet, alors même que, ils sont réservés à une population socialement privilégiée. Donc, quand j'interrogeais mes entrepreneurs en banlieue parisienne, ils soulignaient en fait une triple barrière pour intégrer l'écosystème des startups. Et notamment les grandes écoles, une barrière économique, car tout le monde ne peut pas se permettre de se payer une école de commerce. Et donc les conditions économiques dans lesquelles vous allez les intégrer vont peser inégalement sur le processus de création. Par exemple, Chris, qui vient du 93, donc d'Evry, me raconte qu'il a non seulement eu beaucoup de mal à décrocher un prêt étudiant parce que la banque ne voulait pas lui prêter étant donné la situation de ses parents, donc il a réussi à avoir 3000 euros, ce qui est même pas un dixième de ce que ça coûte. Et donc, il a dû travailler à côté de ses études pour financer son école. Et maintenant, qui veut créer sa start-up, il doit non seulement rembourser son prêt bancaire, et donc il n'a en plus aucun autre emprunt, il n'a aucune autre source de financement pour l'aider à sa création. Donc, en fait, ça constitue à la fois un frein financier et temporel à la création de start-up. La barrière est aussi académique parce qu'il faut encore parvenir à rejoindre ces écoles de commerce qui sont très sélectives. Vous l'avez bien montré, il s'agit souvent de passer par des classes préparatoires, etc. Or, Chris a réussi à rejoindre une école de commerce, mais il avait fait un BTS, donc c'était très compliqué. Donc celles et ceux qui décident de monter une start-up, mais qui viennent de milieux populaires et de banlieues parisiennes, sont déjà les plus diplômés de leur entourage. Ils sont déjà dans une logique de distinction. Ils cherchent par les grandes écoles et par la création de start-up de se distinguer d'autres modes d'entrepreneuriat plus classiques, vus comme plus un moyen de sortir de la précarité. Donc il y a tout un discours sur l'entrepreneur de banlieue généralement monte son grec ou sa pizzeria, mais nous c'est autre chose. Mais la barrière est académique. On sait très bien que le niveau scolaire est aussi, dépend du niveau social, et tant l'école reproduit les inégalités sociales. Et la barrière, elle est également géographique entre Paris et la banlieue parisienne, car s'il existe des incubateurs, quelques structures d'accompagnement en banlieue, donc un incubateur à la Courneuve, notamment où je suis allée, la majorité en fait, des structures d'accompagnement et puis des lieux de sociabilité et de socialisation se situent dans le centre, dans Paris intramuros, et même dans certains quartiers assez définis. Déjà, il y a une certaine séparation qui se manifeste. Et en plus, les entrepreneurs que j'ai interrogés issus de banlieues parisiennes ne fréquentent pas ces lieux. Ils disent ressentir une distance qui les sépare à la fois géographiquement, physiquement, mais aussi socialement de la plupart des fondateurs de start-up parisiens. Ils y voient une forme d'entre-soi, en fait, dont les codes et dont les normes de savoir-être sont assez éloignées des leurs, et donc qui ont tendance à leur renvoyer le stigmate de leur position sociale. Et c'est comme ça que Chris me dit, moi je sais que je me disais, oui, quand je vais aller dans l'afterwork, il n'y a personne qui va me ressembler, je ne vais pas réussir à leur parler, on ne va pas parler le même langage, ils vont me trouver bizarre parce que je ne viens pas du même milieu ni du même monde qu'eux, donc ça va être compliqué. Surtout que les personnes de banlieue, on n'a pas la culture after work. Et comme en école organisée ce genre d'événement, moi j'ai essayé d'y aller une fois, mais j'étais souvent tout seul dans mon coin, personne ne venait me parler, ils avaient déjà leurs habitudes, ils discutaient déjà entre eux. Donc au final, j'allais pas dans ce genre d'événement. Enfin, ça montre en fait l'autocensure, mais qui se produit par un vrai phénomène d'exclusion aussi au sein de ces espaces-là. Donc ce sentiment de décalage que Chris exprime limite en termes de langage, de culture, s'explique par les caractéristiques sociales en fait, de celles et ceux qui fréquentent ces événements et qui sont très éloignés des siennes. Donc même pour Chris qui a rejoint une école de commerce pour se rapprocher du milieu des start-up et de l'entrepreneuriat, la fréquentation de ces événements est une épreuve tant les codes sont éloignés de sa socialisation initiale. Du coup, ma question, c'est est-ce que la culture des startups ne serait pas finalement une culture de classe, en fait, un peu comme l'école, comme l'a pu montrer Bourdieu. Alors, j'ai essayé de construire trois modèles de socialisation pour comprendre les dispositions différentielles à l'entrepreneuriat selon les milieux sociaux. Voilà, j'ai essayé d'articuler, de construire ces trois modèles en articulant, mais selon le degré de continuité ou de rupture des socialisations secondaires avec la socialisation primaire. Donc est-ce qu'on est, en fait, en faisant un peu ce qu'avait fait Muriel Darmon, en reprenant un peu les formes de socialisation secondaire qu'elle a décrites. Donc un premier modèle qui semble se dégager est celui de la vocation entrepreneuriale. Donc en fait, ce modèle concerne les entrepreneurs qui sont issus de familles d'entrepreneurs, donc qui ont un exemple d'entrepreneur dans leur entourage, et donc pour lesquels la socialisation à l'habitus entrepreneurial se fait limite dès l'enfance, et ne se trouve que réaffirmée en fait, par ces institutions socialisatrices que sont les grandes écoles et lieux de l'écosystème parisien. Donc c'est le cas de 20% de mon échantillon, de 13 de mes enquêtés, qui ont du coup un père indépendant ou chef d'entreprise, donc ils héritent d'un véritable goût pour l'indépendance, ils aspirent à occuper un statut social au moins aussi élevé que celui de leurs parents. Donc leur contexte familial facilite grandement ce goût pour l'indépendance. Et donc la socialisation à l'univers des startups fonctionne un peu comme une socialisation de renforcement par rapport à leur socialisation primaire, faisant de la création d'entreprises presque une évidence vocationnelle. Ensuite, il y aurait le modèle de l'accélérateur de carrière, parce qu'en fait, la plupart des fondateurs et des fondatrices de startups, soit 53%, ont un père cadre. Et il faut savoir aussi que 63% étaient cadres avant d'entreprendre. Ces entrepreneurs-là sont issus de classes sociales plutôt aisées, mais ils n'ont pas eu forcément de modèle entrepreneurial dans leur entourage. Et donc, c'est surtout au sein des grandes écoles pour eux et autres lieux de socialisation au monde des startups que va s'opérer cette socialisation à cet univers. L'absence de modèle entrepreneurial va être compensée par la force socialisatrice secondaire, finalement, exercée par ces institutions, qui les invite non seulement à envisager la création de start-up comme une trajectoire professionnelle enviable, et puis qui en même temps leur donne les ressources pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Ce modèle-là se rapprocherait finalement d'une forme de socialisation de conversion, puisqu'il suffirait en fait, venant insuffler à ces étudiants un désir d'entreprendre, mais en leur donnant les ressources pour pouvoir le faire. Donc il suffit pour eux de convertir quelques dispositions déjà là pour pouvoir le désirer et y parvenir. Mais en fait, voilà, il y a le troisième modèle qui est un peu, je l'appelle le modèle du parcours du combattant, c'est pas bien, mais bon. Hein. Donc qui concerne du coup plutôt les entrepreneurs issus de classes populaires et qui résident dans mon corpus d'entretien en banlieue parisienne. Leur socialisation ne leur donne pas souvent les dispositions sociales nécessaires à entreprendre. Comme on l'a vu, la première barrière elle est économique, alors pour l'accès aux grandes écoles, mais aussi, ils ne peuvent pas autant bénéficier que leurs homologues parisiens de l'aide de leurs parents pour entreprendre. Donc la décision de se lancer en fait n'est pas vraiment évidente, devant composer avec les contraintes de leur situation économique et des formes de socialisation antérieure qui peuvent diverger et même être contradictoires. Enfin, voilà, j'ai même un passage d'entretien de quelqu'un qui me dit que c'était pas du tout quelque chose qui, enfin, cette prise de risque n'était pas du tout envisageable dans son milieu familial. Enfin, c'était pas quelque chose auquel il avait été socialisé. Et alors l'exemple de bon, Chris encore, je sais pas pourquoi il y a que lui au final. Mais il est pas mal, il explique bien les trucs. Dans ma cité, il y avait personne qui avait fait ça, ou ceux qui avaient fait ça, ils avaient monté soit des Grecs ou eux des trucs de ce type-là. Donc j'avais personne sur qui m'identifier, mais j'avais la volonté. Et même pendant mon BTS, je disais à mon prof, ouais, moi je veux faire une école de commerce, etc. Et lui, il rigolait, il me disait, ouais, ça va être compliqué parce que les sélections, c'est dur, etc. Mais à ce moment, je savais pas c'était quoi une start-up, je connaissais rien du tout à ce qui était start-up et tout ça. Mais moi, je voulais juste monter un truc innovant, un truc où je savais que j'allais me plaire. Donc, ça montre bien que... Alors, lui, il présente vraiment la création de start-up comme quelque chose de vocationnel, alors même qu'il ne savait pas ce que c'était qu'une start-up avant de rentrer dans l'école de commerce. Il montre aussi toutes les formes de découragement, en fait, auxquelles il a dû faire face pour y aller. Donc, c'est vraiment pas du tout le même genre de trajectoire. Lui, il a dû se battre, en fait, pour y parvenir. Donc, là... La socialisation primaire de ces entrepreneurs de banlieue est donc clairement éloignée de celle des entrepreneurs parisiens que j'ai pu rencontrer. En fait, ils sont à la fois isolés au sein de leur entourage parce que ce sont les seuls à vouloir faire une école de commerce. Donc déjà, personne ne comprend trop leur choix, ils sont peu encouragés. Mais ils sont également exclus des lieux de socialisation parisiens. Et même quand ils rejoignent une école de commerce, on l'a bien vu, des after-work, etc. Donc, c'est souvent par l'intermédiaire de réseaux spécifiques que s'opère cette socialisation à l'écosystème. Notamment, en fait, je les ai tous rencontrés par l'intermédiaire d'un réseau qui s'appelle Les Déterminés, relié à un groupe Facebook Entreprendre en banlieue, et en fait destiné à aider et à accompagner les entrepreneurs de banlieue. Donc, c'est un peu critiquable en plein d'aspects aussi, parce que c'est finalement un peu des modes de discrimination positive. Mais eux considèrent que c'est hyper bien parce que ça leur permet d'avoir un réseau tout de même, de regagner confiance en eux, d'être dans un entre-soi qui les rassure en faisant tomber les barrières, les autocensures liées à leur classe. Et bien plus, en fait, ces réseaux opèrent une socialisation de transformation qui va leur permettre éventuellement, s'ils passent, pour certains, pour très peu d'entre eux, de passer le stade de la levée de fonds, de pouvoir convaincre un investisseur dont les codes sont ceux des dominants. Et donc, comme le dit Amir, c'est difficile déjà parce qu'on n'a pas les codes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le langage et des fois juste le comportement. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais là, tu vois, je te parle correctement, mais quand j'étais plus jeune, j'avais une autre façon de parler, je ne m'en rendais pas compte, et il a fallu que je tombe sur le répondeur et que j'écoute le répondeur pour me dire « Putain, c'est catastrophique cet accent, j'avais un accent de banlieusard, quoi ». Ensuite, c'était « Ouais, c'est la posture, c'est comment tu te comportes, c'est les codes, quoi ». Et ça s'apprend. En fait, ça s'apprend, ça s'intériorise, et ça se transmet, et on voit surtout les inégalités là-dessus. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'il transforme entièrement son savoir-être pour pouvoir s'immerger dans ce monde-là. Socialisation de transformation qui est plutôt incertaine étant donné ce contexte. Donc en fait, si pour certains et certaines, la socialisation à ce monde ne fait que renforcer et confirmer des dispositions déjà bien ancrées, elle peut requérir pour d'autres d'aller à l'encontre de socialisation et d'habitudes antérieures, et parfois même au prix de beaucoup d'efforts et de temps. Donc c'est-à-dire que créer sa start-up quand vous êtes pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 4 ans à obtenir une subvention BPI, alors que c'est la base. C'est un truc que vous devez réussir à faire en 1 an si vous voulez monter votre start-up rapidement. Enfin, ce qui est le principe d'une start-up, c'est de croître rapidement. Donc on voit bien qu'on est sur des temporalités très différentes. Donc en conclusion... se socialiser au monde des startups, c'est donc une étape essentielle dans le processus de création, mais la maîtrise de ces codes et de ces normes n'est pas à la portée de tous. Cette socialisation requiert bien souvent le passage par de grandes écoles qui sont devenues de puissants lieux de socialisation à l'entrepreneuriat, à l'esprit d'entreprise, en même temps qu'elles transmettent des ressources précieuses et nécessaires pour s'insérer dans ce champ d'entreprise particulier. Cependant, ces écoles sont souvent hors de portée, économiquement et académiquement, pour des entrepreneurs issus du milieu populaire et de surcroît de banlieue parisienne. Ce que je voulais juste dire en conclusion, c'est que Enfin, moi, je m'étais intéressée à ces entrepreneurs parce que, en fait, quand on enquête sur ma population, par le réseau et par la force, par l'effet statistique, en fait, on ne rencontre que des personnes qui ont fait ces écoles de commerce et qui ont fait ces écoles d'ingénieurs, etc. Donc, que des personnes finalement assez dominantes. Et donc, en fait, j'ai dû aller les chercher, celles et ceux qui étaient pourtant érigés des fois comme des modèles de promotion, parce qu'en fait, le modèle des startups serait méritocratique et un modèle d'ascension sociale hors pair. Donc, en fait, je m'étais dit, si c'était le cas, allons voir comment ça se passe pour celles et ceux qui seraient un peu moins bien dotés. Et du coup, est-ce que vraiment ça permet une ascension sociale? Alors, oui, pour certains, mais en fait, les temporalités sont tellement longues, sont tellement autres. Et les dispositifs en fait si peu nombreux pour en fait créer cette égalité des chances qui est en fait complètement illusoire, que faudrait un peu arrêter de dire que c'est un modèle méritocratique, mais peut-être plus assumer le fait que la culture des startups est une culture de classe.